Bonjour Sandra Régol.
Bonjour.
La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg est donc reçue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une invitation qui met en colère un certain nombre de députés de l'opposition. Certains ont parlé de gourous apocalyptiques, d'autres de prophétesses en culottes courtes. Qu'est-ce que vous inspire cette polémique ?
Ça m'inspire beaucoup de questions, puisque dans le même temps, on a un homme beaucoup plus âgé qui s'appelle Nicolas Hulot, qui professe à peu près les mêmes propos que Greta Thunberg, qui le fait par une lettre ouverte directement aux députés et qui ne réveille pas comme ça la haine et les attaques de cette même partie de la population. Mais après, vous savez, ces députés LR, Rassemblement National, il y a quelques jours, lors de la première vague de canicule, expliquaient que tout ceci n'était qu'un peu de chaleur fin juin et que tout ceci était bien normal, c'est-à-dire faisait preuve d'un déni du réchauffement climatique. Oui. Il n'est pas très étonnant de voir ces mêmes personnes après attaquer la jeune femme qui aujourd'hui incarne la parole de cette jeunesse qui en a assez de cette génération avant elle qui n'a rien fait pour lutter contre le réchauffement climatique.
Est-ce que la question que pose au fond, à travers leur réaction, peut-être parfois un peu virulente, mais enfin un certain nombre de membres de l'opposition, ça n'est pas celle de la légitimité et de l'autorité de cette jeune femme ou jeune fille, puisque 16 ans, on est un peu à la limite?
Très probablement que ce changement de société qui fait que l'élection européenne, pas seulement en France, hein, à travers l'Europe, bascule un peu parce que toute une partie de la jeunesse s'est mobilisée et a décidé d'aller voter. Oui, très certainement que ça doit remettre un petit peu en question les certitudes et les petites territorialisations et les baronnies acquises. Donc oui, ça doit gêner aux encornures ces personnes-là.
Mais ma question, c'était aussi, enfin, je vous la posais également à vous, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'elle a une autorité, une légitimité ? Parce qu'au fond, on ne connaît pas exactement ses propositions à cette jeune femme, Greta Thunberg. Elle dit par exemple, il faut serrer le frein à main. Bon, mais encore.
En fait, elle ne réclame pas d'incarner quelque chose, elle ne réclame pas une légitimité.
Oui, mais de fait, aujourd'hui, c'est ce qui lui arrive.
En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle, elle propose un discours, elle dit « je ne suis qu'une voix ». Et écouter cette voix qui émane de la société, de la jeunesse. Mais c'est pas forcément moi. C'est des Greta Thunberg, il y en a partout. Des équivalents, il y en a partout. Et tout ce que je suis, c'est un porte-voix. Et face à ça, la réponse des gens qui ne veulent surtout pas que le système évolue, surtout pas que le système change, c'est de dire, regardez là, elle prend le pouvoir alors qu'elle n'a pas de légitimité. Or, jamais Greta Thunberg n'a demandé le pouvoir. Mmh. Jamais elle n'a demandé d'être cette influenceuse. Elle l'est devenue parce qu'elle a eu le courage, le mérite, la capacité de porter une parole que peut arriver à porter.
L'un des reproches qui lui est fait par ses détracteurs, c'est d'avoir une vision un peu catastrophiste des choses. Je citais par exemple l'expression « gourou apocalyptique » que l'on doit au député Les Républicains Guillaume Larrivé. Greta Thunberg dit par exemple, elle s'adresse aux jeunes, je la cite, hein, « je ne veux pas que tu aies de l'espoir, je veux que tu paniques comme moi ». Est-ce que c'est une façon d'aborder la question de la protection du climat, de la défense de l'environnement que vous partagez ?
Elle dit surtout aux générations avant elle, vous, moi, les dirigeants, je veux que vous paniquiez, parce que nous, on panique les jeunes, parce que c'est notre avenir qui est en jeu, et plus le vôtre. Et c'est un discours qui est beaucoup plus à destination de ceux qui ont la capacité de décider. Je vous rappelle qu'à 16 ans, que ce soit en France ou ailleurs, elle n'a pas le droit de vote. Elle n'a pas la capacité de décider en tout cas d'influer directement sur la loi. Donc le seul espace qu'ont ces jeunes, que ce soit Greta Thunberg, c'est pas la seule personne qui est reçue. Hein. Je vous rappelle que les jeunes de la jeunesse pour le climat français sont aussi cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et ces jeunes-là, mineurs, n'ont pas le droit de signer de pétition, n'ont pas le droit de voter. Et pourtant, leur avenir est décidé par d'autres. À un moment donné, ces jeunes ont décidé de se saisir de la société médiatique, du discours politique pour dire nous avons le droit aussi de décider de notre avenir. C'est plutôt sain quand une société laisse la parole à sa jeunesse, quand elle l'écoute. Je dis pas qu'il faut donner le pouvoir à ces jeunes-là, mais je dis qu'à un moment donné, ils ont le courage de nous alerter sur des choses sur lesquelles la société commence à avancer.
Donc l'invité à l'Assemblée nationale était une bonne idée.
Alors, elle est invitée à intervenir dans un colloque, comme il y en a des centaines chaque année à l'Assemblée nationale. Elle n'intervient pas dans l'hémicycle, contrairement à ce que ses détracteurs laissent à penser par un discours sciemment très flou.
Le CETA maintenant, morceau de choix dans l'actualité du jour, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. C'est aujourd'hui que les députés doivent se prononcer. Les appels à ne pas voter le texte se sont multipliés et se sont multipliés notamment ces derniers jours avec celui de Nicolas Hulot hier, l'ancien ministre de l'Environnement. Est-ce qu'il n'aurait pas dû combattre peut-être plus activement ce CETA lorsqu'il était au gouvernement?
Alors c'est une belle ironie de l'actualité quand même qu'avoir Greta Thunberg, la patronne
c'est
du
largement
GIEC,
souligné, en effet,
etc., qui interviennent le jour même de ce vote. On peut espérer que ce soit un électrochoc pour nombre de députés. Est-ce que Nicolas Hulot aurait pu combattre plus? On peut toujours combattre plus. Moi, vous savez, je suis pas défenseur de Nicolas Hulot, donc je ne parlerai pas à sa place. Mais ce qui est certain, c'est que la situation dans laquelle il est aujourd'hui, la force, la radicalité de son discours prouve que lorsqu'il était soi-disant aux manettes, il n'avait aucune manette. Parce qu'un ministre seul dans un gouvernement qui développe une politique contraire à des politiques qui protègent le climat, qui protègent l'environnement, n'a pas les moyens d'agir. Moi, c'est ce que je vois ressortir du positionnement de M. Hulot actuellement, et je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant parce qu'il nous reste 10 ans, 15 ans dans les meilleurs scénarios pour mettre en place les politiques publiques qui permettent de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degré. Vous voyez, je dis même pas empêcher le réchauffement climatique. Je dis juste qu'il se maintienne en dessous des 1,5 degré. Et 10 ans, 15 ans, c'est très court, c'est 2, 3 mandats maximum. Donc si on n'agit pas tout de suite, c'est pas, il sera trop tard, mais en tout cas on n'aura plus les moyens d'avoir la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Est-ce qu'il serait pas temps, quand on est face à un vote comme celui du CETA, dont on sait que les conséquences sont particulièrement néfastes pour le climat, que nos élus, qui n'ont que la délégation du pouvoir du peuple français, soit un peu, j'ai envie de dire, aussi courageux que Greta Thunberg et qui mette un coup de cutter dans le poignard et qui mette fin au CETA tel qu'il se développe aujourd'hui avec tous ses non-dits, avec toutes ses fausses promesses. On est à 2 ans d'expérimentation du CETA. On sait aujourd'hui qu'il n'apporte rien ou quasi à l'économie.
Alors, le CETA, il a, on va dire, des implications sur trois plans, on peut dire, sanitaires, environnementaux et économiques. Sur l'économie, justement, le gouvernement a publié sur son site internet une page de questions-réponses. Le CETA est-il bon pour l'économie? La réponse est oui. Donc vous, vous vous inscrivez en faux.
Oui, je m'inscris en faux pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, le CETA, en diminuant les droits de douane, en les supprimant pour certains, n'a pas développé des nouveaux marchés. Tout ce qu'il a permis, c'est que des gens qui gagnaient déjà de l'argent sur ces marchés-là en gagnent encore plus. Et j'ai pas l'impression que le fait que quelques personnes gagne plus, permet de développer l'économie, surtout pas après 7 mois de gilets jaunes où la question des inégalités territoriales, économiques, environnementales était au cœur de l'agenda.
Il y a la question aussi qui est beaucoup évoquée depuis quelques jours en particulier, c'est celle des farines animales. Alors, peut-être jetons un peu sur les mots, mais de fait, aujourd'hui, on ne peut pas garantir que des bovidés ne viendront pas du Canada en ayant consommé certains types de farines animales.
Alors, on joue effectivement sur les mots. C'est ça la beauté de la législation telle qu'elle est aujourd'hui autour du CETA. C'est que les farines animales telles qu'on les connaît avec des animaux malades ne pourront effectivement pas nourrir les animaux dans ces quelques fermes au Canada. En revanche, oui, il y a de la viande dans l'alimentation qu'on donne aux vaches. Je sais pas vous, mais moi, je viens de la campagne. J'ai jamais vu des vaches manger de la viande naturellement.
On fait des farines avec le sang, les poils et la graisse, je crois.
Tout à fait. Ça donne envie, non? Ça donne faim le matin.
En effet. Merci Sandra Régol.
Merci à vous, bonne journée.